Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission qui couvre l'actualité du jeu vidéo. Toutes les deux semaines, on a écumé tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les résume dans un format sympathique, rapide et facile à consommer qui en plus vous amuse et vous distrait. Ça rime et j'espère que ça sera en plus vrai. Ah, quadruple rhume, c'est rhume, rime, c'est fou. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans les informations, il y a bien sûr moi, Patrick Béja. Il y a aussi une personne qui n'était pas censée être là, à savoir Jika. Qu'est-ce qui se passe, Jika? Tu tapes l'incruste dans un épisode où t'es pas censé.
Je tape tellement l'incruste. Oui, je tape l'incruste parce que on en parlera peut-être un peu à la fin, mais il va y avoir du changement professionnel en parlant. Donc, j'espère pouvoir continuer le rendez-vous jeu régulièrement, mais il y a un petit peu de flou dans les semaines à venir. Donc,
je me suis dit, tant qu'on peut, voilà, prenons, emmagasinons du Jika.
Voilà, je suis dispo cette semaine, mais je te promets que je vais tout faire pour pouvoir continuer à venir régulièrement.
J'espère. Et on a aussi, pour mettre un petit peu de sel dans notre couple désormais bien huilé, décidément, je n'arrête pas avec les métaphores incroyables, il y a Jeff, alias le Cohénérant, un YouTuber de renom et qui est présent avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Jeff?
Eh bien, écoute, ça va très très bien. Alors, YouTuber de renom, je ne sais pas, mais je suis très flatté de savoir que je suis le seul entre vous deux. C'est quand même assez incroyable.
Oui, effectivement. Bon, tu fais beaucoup de let's play sur ta chaîne YouTube.
Alors, j'ai une chaîne YouTube. Je fais des let's play. Je fais surtout beaucoup de streams aussi en ce moment sur YouTube Gaming. Voilà.
Très bien. Et donc, c'est effectivement le Cohénérant. Oui. Dont le mystère de l'origine du nom restera entier pour la plupart des gens parce qu'on ne va pas spoiler.
Comment ça s'écrit?
C'est vrai. Cohénéran.
Ah oui, c'est bon. Tu apparais en premier dans la recherche Google quand on tape ça.
Bah oui, ouais. C'est un nom qui. Oui.
Ouais, pas mal.
C'est stratégique, ouais, tout à fait. Et grâce à la magie du podcast, du coup, les gens peuvent revenir en arrière parce qu'ils n'ont rien compris la première fois que tu l'as appelé.
Ouais, il y aura même le lien vers ton Twitter dans les notes du podcast. Donc les gens auront tout loisir de découvrir ta chaîne très que facilement.
Je viens de m'abonner à ta chaîne, du coup.
Magnifique. Cool. Et en plus, on fait un tout petit aparté avant de nous lancer dans les news. On va quand même parler de Sony, de Destiny, de Star Wars Battlefront, de Metal Gear, de microtransactions pour tout ça. Ça va être hyper intéressant, évidemment. Mais avant ça, je voulais quand même mentionner le fait que je m'en suis rendu compte après t'avoir proposé de participer à l'émission, Jeff. Mais en fait, toi aussi, t'es un ancien de Blizzard.
Ouais. Donc, on s'est croisé là-bas, oui.
Ouais, c'est incroyable.
C'est le monde est petit et c'est ça qui est drôle, c'est que tout comme toi, je suis un ancien de Blizzard et tout comme toi, je suis un fan inconditionnel de Nintendo. Heureusement, on ne parle pas ni de l'un ni de l'autre dans cette émission parce qu'on n'aurait pas du tout des avis tranchés l'un pour l'autre, quoi.
Oui, c'est sûr. Bon, mais effectivement, on n'a ni Blizzard ni Nintendo. Par contre, on a, comme je le disais, Sony, des microtransactions, Battlefront, Need for Speed, la bêta, Tony Hawk 5 qui est sorti pour le plus grand plaisir de personnes et d'autres petites news comme ça. Il n'y a pas une grosse news, donc je faisais la prédiction avant de nous lancer qu'on allait tenir en moins d'une heure, mais On va voir, généralement, je me trompe.
Ça n'arrivera jamais. À chaque fois, on dit ça, Patrick, et à chaque fois, on fait une heure et demie. La dernière fois avec Daniel, je pense que je sais plus combien de temps a duré l'émission, mais ça a bien duré 2 heures.
Oui. C'était
après Daniel, c'est quand même particulier, parce que c'est ça. Il est volubile, le garçon.
Daniel, quand il commence à parler, c'est difficile de l'arrêter. Donc,
exactement.
Il nous livrait toute sa science et sa sagesse avec générosité, on va dire. Mais bon, donc, comme on n'a plus le Tokyo Game Show pour nous occuper, comme dans l'émission précédente, que vous feriez bien d'aller écouter d'ailleurs si ce n'est pas fait, parce que c'était une émission passionnante. Une news qui nous revient du Tokyo Game Show, c'est que à ce moment-là, Sony avait coupé le prix de sa PlayStation au Japon, avait réduit le prix un petit peu, et on a appris il y a quelques jours que le prix était également réduit aux États-Unis, à savoir qu'elle passait de $399 à $349. En fait, il s'aligne sur le prix de la PlayStation, de la Xbox One. Et là, la question évidemment que nous, Français, Européens, nous posons, c'est quand est-ce que le prix va passer à 349 € en France également? Et là, je me retourne vers tous les deux. Quels sont vos pronostics si vous n'avez pas déjà lu les notes de l'émission?
Alors déjà, tu as employé un mot, tu as dit quand est-ce que la PlayStation 4 va baisser de prix et non pas si la PlayStation va baisser de prix ou pas, en fait. Donc
oui, j'essaye de vous enduire d'erreurs. en même temps, à un moment, ça arrivera, mais on se dit, est-ce que ça va arriver cette année, quoi?
Bah, disons qu'il y a Noël qui approche, c'est clair et net. On a des systèmes sellers côté Xbox qui arrivent, on a Tomb Raider, on a Halo 5. Moi, je pense que ça va forcément venir. On sait aussi que Sony va être là et va faire une conférence à la Paris Game Week à la fin du mois. Est-ce que ce serait l'annonce aussi d'une baisse de prix en Europe? À voir.
Possible, effectivement. Un avis contraire, JK? Non, d'accord. Bon, JK a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe. T'es plus là, JK? T'as peut-être mis mute sur ton son? Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Bah, c'est pas grave. Eh ben, écoutez, je vais répondre pour lui, du coup. En fait, j'en discutais avec un follower Twitter. Ah, JK, t'es revenu?
Non, attendez.
Oui, là, c'est bon. Là, oui. C'est bon.
Bah, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai débranché, rebranché. Comme souvent, ça règle le problème.
Si dans le doute, reboot. Mister C sur Twitter qui m'a fait remarquer avec beaucoup de justesse que la situation était très différente aux États-Unis. Et que, en fait, au Japon, on le savait, la PlayStation 4 se vendait pas aussi vite qu'il ne le voulait, même s'il n'avait pas de concurrence. Aux États-Unis, par contre, la concurrence de la Xbox One, surtout depuis la baisse de prix, est quand même assez féroce. Et comme on sait qu'il y a, comme tu le disais, Jeff, les system sellers qui arrivent, des gros titres qui arrivent sur Xbox One, la baisse de prix était inévitable aux États-Unis. Par contre, en France, la PlayStation 4 a une telle avance, qu'il n'est pas impossible qu'il ne se sente pas obligé de faire une baisse de prix. Il y a vraiment une avance très sensible sur les ventes. On voit sur août, par exemple, la dernière semaine d'août, qui sont les chiffres qu'on a sur VG Charts, il y avait en Europe 60 000 PS4 vendus contre seulement 15 000 Xbox One. Alors, c'était les chiffres que d'une semaine, mais vous voyez qu'on est du simple au quadruple. On pourrait imaginer que peut-être Sony se dirait que c'est pas forcément la peine de baisser le prix. En même temps, ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Le catalogue de la Xbox One s'étoffe alors que celui de la PlayStation 4 se décale de plus en plus sur le premier trimestre 2016. Pour Noël, ils n'ont rien de vraiment incroyable. Donc, on peut pronostiquer les deux et être tout à fait crédible dans les deux pronostics. JK, toi, tu t'en penses quoi alors? Baisse de prix, de prix avant Noël?
Je suis plutôt d'accord, même si effectivement l'argument de Sony est devant en Europe, ils ont tellement d'avance qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient cohérents avec une politique mondiale. Enfin, ce serait quand même, je pense qu'il y aurait beaucoup de mécontents et ça gueulerait pas mal si la baisse de prix était partout sauf en Europe, sous prétexte qu'elle se vend très bien. Ok. Et là, tous les facteurs sont réunis pour que la baisse de prix. Enfin, comme vous disiez, enfin voilà, il y a la conférence Sony de la PGW qui arrive, qui a priori sera quand même une grosse conférence, il y aura pas mal d'annonces. Voilà. Il y a
j'entends des rumeurs sur une date de sortie de No Man's Sky, d'ailleurs, qui pourrait être en novembre. Oui. Ça me paraît tôt, mais...
Ouais, moi je vois plus 2016, hein, effectivement.
Ça me paraît impossible.
Ouais, ça me paraît très tôt. Et voilà, Noël qui arrive, la Xbox One qui reprend du poil de la bête, c'est, je pense que pour là, c'est vraiment le meilleur moment pour annoncer une baisse de prix. Déjà que la console se vend bien, si en plus il la baisse à 349 €, là, je pense qu'ils vont pouvoir prendre encore 100 mètres d'avance sur la Xbox One. Ouais, carrément. Et puis moi j'y crois.
En plus, l'autre truc qui me laisserait penser qu'une baisse de prix est possible, c'est que à un moment ils vont devoir la baisser. La console est sortie, comme on disait, il y a 2 ans. Ils vont pas le faire, je sais pas moi, en avril 2016. Ça n'a aucun sens commercialement de le baisser à ce moment.
C'est ça.
C'est Noël, vraiment la période qu'il faut pas rater. Donc,
ah oui, s'ils le font pas là, ils attendront peut-être Noël fin 2016. Mais
et là, bon, ça serait vraiment tard, quoi.
Ouais, ce serait un peu tard.
Ouais, il y a aussi autre chose aussi, c'est que moi, en tant que consommateur, si j'hésitais à acheter une PlayStation 4 aujourd'hui, sachant qu'elle a baissé de prix partout dans le monde sauf en Europe, j'aurais tendance à attendre d'avoir une annonce de baisse de prix, en fait. Et du coup, je sais pas si ça pourrait peut-être freeze les ventes en attendant, en fait. Donc, ils ont tout intérêt à l'annoncer, quoi, je pense.
Tout à fait. S'ils ne le font pas, il faut qu'ils disent, par un moyen ou un autre, un commentaire ici ou là, sur Twitter ou Dieu sait quoi, vraiment pas quelque chose d'hyper officiel, mais il faut qu'ils disent, il n'y a pas de baisse de prix prévue pour cette année pour la PlayStation 4 en Europe. Il faut qu'ils le disent, voilà. Sinon, effectivement, tout le monde va attendre. Donc bon, on verra ce qui se passe à la Paris Games Week à la fin du mois. Peut-être qu'on aura des annonces à ce moment-là. En attendant, on a des petites informations sur différentes news de microtransactions que j'ai réunies en fait ensemble, parce que ça nous donne un petit peu différentes approches de l'idée de la microtransaction et du c'est 50 Shades of microtransactions, quoi. C'est un petit peu les extrêmes dans tous les sens. On a d'un côté Destiny, chez qui on va avoir des emotes, des danses et des trucs comme ça qu'on va pouvoir acheter à partir de demain. Il y aura un nouveau marchand qui sera disponible dans le jeu, qui va pouvoir vendre des éléments qui seront uniquement cosmétiques, donc qui n'auront aucune influence sur le gameplay du jeu lui-même, donc vraiment juste des emotes du type des danses qui étaient incluses dans la version collector de l'extension The Taken King. Et en parallèle de ça, alors d'une part, a priori, moi je me dis que c'est la bonne approche de pas influencer le gameplay, ils ont beaucoup insisté là-dessus, mais en parallèle de ça, on a des rumeurs selon lesquelles ça serait la seule monétisation du jeu jusqu'à la sortie de Destiny 2, sans doute, en septembre 2016. Donc, il n'y aurait pas de pack vendu pour un prix plus élevé, comme ça avait été le cas pendant la première année. Donc, il n'y aurait pas de mini-extension de DLC pour Destiny. Tout le contenu additionnel, qui continuerait à arriver de manière assez régulière, arriverait gratuitement. Donc voilà, ça c'est pour Destiny. Pour Metal Gear Solid, on a un patch qui est arrivé la semaine dernière, qui ajoutait un certain nombre de fonctionnalités et une assurance pour votre base avancée qu'on pouvait payer avec de l'argent réel. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter de la monnaie en jeu avec de l'argent réel pour des sommes variées, hein, qui vont de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros. Et ce que ça fait, c'est que votre base avancée, qui n'est active que si vous jouez en ligne et qui n'est pas la base de base du jeu, en fait, votre base avancée qui est censée vous ramener de l'argent pour votre base principale, peut être attaquée. Et si elle est attaquée, vous pouvez perdre des éléments de cette base-là. Eh bien, vous pouvez payer avec de l'argent réel une assurance de manière à ce que certains des éléments que vous pouvez perdre soient remplacés immédiatement. Donc, vous ne les perdez pas. Donc, c'est la deuxième, exemple de microtransaction. Et le troisième, c'est Zynga, qu'on connaît bien pour ses jeux mobiles addictifs, on va dire. Et Zynga qui a créé un nouveau type de publicité en jeu, qui est une publicité en jeu qui se présente sous la forme de jeux. C'est des mini-jeux, ça s'appelle le programme Sponsored Play, et ou encore ils ont appelé ça les Advert Games, donc Advertisement Games. Donc c'est des petites pubs, sauf que au lieu d'avoir une vidéo, vous jouez à un petit jeu dans le jeu auquel vous êtes déjà en train de jouer, et vous pouvez avoir, par exemple, des gemmes pour pouvoir faire plus de trucs dans votre jeu, etc., etc. En jouant au mini-jeu qui fait de la pub pour un autre jeu. C'est un petit peu méta, mais voilà de quoi il s'agit. Alors, on a ces trois différentes étapes, ces trois différents exemples de transactions en jeu. JK, toi, ça t'évoque quoi tout ça? Ah, bah décidément, il faut que tu débranches et que tu rebranches encore parce qu'on ne t'entend toujours pas. Je ne sais pas ce qui se fait. Vas-y.
Non mais c'est bizarre, j'espère que ça va pas faire tout ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment ça désactive. C'est pas grave, donc je disais de...
Ah bah, tu disais que... et t'as redisparu. Ton micro visiblement a des petits soucis. Si je sais pas si t'as un autre micro, peut-être essayons de le brancher, mais Jeff, en attendant, toi ça t'inspire quoi tous ces trucs-là sur le principe du rapport aux joueurs et du rapport aux produits?
Ben, concernant Destiny, en gros, c'est à peu près ce qu'on connaissait déjà, ce qui était étendu de la manière la plus globale concernant les microtransactions, c'est-à-dire de la customisation, mais qui n'influe pas sur le gameplay, donc tant mieux.
Disons que c'est le truc qui est généralement le mieux accepté
voilà,
par les joueurs.
Oui,
quoi.
Tout à fait, parce que voilà, ça donne aucun avantage aux joueurs qui payent, et donc tant mieux. Je t'ai entendu dire aussi que les DLC qui allaient venir après seraient gratuits.
Ouais, alors c'est une rumeur, et ça serait pas des gros DLC, mais simplement du contenu amené régulièrement. Ils doivent faire une annonce sur ce sujet, j'imagine, à un moment, peut-être même à la conférence de la Paris Games Week de Sony. Mais pour le moment, c'est effectivement la rumeur. Si c'est le cas, je pense que tout le monde s'y retrouvera.
Oui, voilà. Si c'est le cas, tant mieux pour tout le monde. C'est le système parfait, je dirais. Après, concernant Zynga, je parlerai peut-être de Metal Gear Solid 5 après. Concernant Zynga, ça me rappelle un petit peu un système qui existait sur la musique. Alors, je sais pas parce que c'était assez obscur. Je sais pas si les gens connaissent. Il y avait une société qui s'appelait Bizik et qui faisait exactement le même système. C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger des morceaux des MP3 avec DRM uniquement si on regardait une pub juste avant, ce qui nous permettait de télécharger gratuitement des MP3. Et même si le système marchait bien, je l'ai utilisé, ça s'est fait ensuite complètement bouffé par des Spotify et des Deezer, donc
ouais, qui sont eux complètement gratuits, donc complètement gratuit, oui non,
voilà,
oui, non,
avec
oui.
Avec de la pub, ou alors on paye un abonnement. Donc je me dis pourquoi pas, le système de Zynga est plutôt sympathique. Après, c'est toujours l'éternel débat, c'est que des jeux mobiles ou des jeux sur navigateur, jusqu'où va aller la pub? Est-ce que ça va pas ouvrir une dizaine de pop-up instantanément? C'est plutôt ça qui me fait peur.
Mais ouais, si disons ça permet... que là, c'est contrôlé par Zynga, effectivement, mais...
Oui, bon. Voilà, ouais. Donc, faudra voir, à voir. Après, sur le principe, pouvoir avoir des boosts sans payer en regardant de la pub, moi, je suis plutôt pour, il n'y a aucun souci là-dessus.
Ouais, après, est-ce qu'on apprécie ces jeux-là ou pas? C'est un autre,
oui, voilà,
une autre
c'est
question.
Un,
mais,
c'est
ouais.
un autre débat, voilà. Moi, je ne suis pas du tout la cible, mais c'est encore des jeux qui marchent énormément bien, et voilà.
Bien sûr. Alors après, la grande question, effectivement, c'est Metal Gear Solid 5. Est-ce que ce système... qu'est-ce que t'en penses? Je dirais ce que j'en pense après.
En fait, j'ai découvert la news ce matin. Ça m'a complètement surpris. J'essaie de retomber un petit peu de mes émotions. C'est vrai que sur le principe, en fait, puisque d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas joué à Metal Gear Solid 5. Peut-être que tu pourras m'en parler un peu plus. Mais si j'ai bien compris, en fait, on peut se faire attaquer notre base par des joueurs en ligne.
Alors,
et
c'est
perdre.
Ouais, c'est la version en ligne de la base qui est complètement
voilà.
séparée de l'expérience
solo. C'est pas la
mother
solo, base.
Donc, voilà, non, c'est pas
la
mother
base, c'est la FOB. Voilà.
C'est ça.
Et donc on peut se faire attaquer cette base et perdre du personnel et de l'équipement sur ces bases-là si quelqu'un nous raid, nous pille cette base, en fait.
Exactement,
si j'ai bien compris. Et donc en fait, Konami nous propose de payer une assurance préventive. Avec de l'argent gagné en jeu, mais aussi avec de l'argent réel pour ceux qui n'ont pas d'argent en jeu, pour éviter de se faire piquer du stuff de manière aléatoire, parce qu'on peut pas vraiment prévoir quand est-ce qu'un joueur va nous piquer du personnel.
Oui, disons que comme dans certains jeux mobiles justement qui sont assez malins, où on construit une base et puis elle se fait raider quand on n'est pas là. Il y a plein de jeux mobiles qui marchent comme ça, une sorte de gameplay multiplayer asynchrone qui marche pas mal. On a du coup des moments où la base se fait piller. Dans la plupart de ces jeux, on perd pas
Ouais. C'est ça qui me dérange, c'est que se faire piller de manière asynchrone, il n'y a aucun souci, enfin je vois aucun souci là-dedans. Le problème, c'est que le joueur qui se fait piller, il perd vraiment du stuff. C'est comme si comme dans WoW, vous vous connectiez au bout de 2 semaines et vous voyez que vous aviez perdu 3 items.
Oui et non, disons que
ça me fait un peu peur, voilà.
Ouais, le truc, c'est que c'est des objets qui sont complètement remplaçables. C'est pas non plus des trucs que t'as passé des années à récupérer. Encore que, il y a des éléments. Moi, j'ai pas utilisé cet élément de gameplay de Metal Gear, mais il y a certains objets qu'on ne peut pas assurer. Les armes nucléaires, par exemple, on peut pas les assurer, etc., etc. Le truc, c'est que moi, ce que ça m'évoque, c'est un truc qui me fait émotionnellement, qui me semble moyen. C'est genre, ça sent pas bon quand même. C'est pas très cool.
Ça fait un peu la limite presque franchie, voilà.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un peu bizarre.
Mais je crois qu'après cette première réaction un petit peu épidermique, quand je réfléchis à ce que ça donne comme possibilité, c'est pas super propre non plus. C'est un poil cradoc, mais c'est pas non plus absolument. Ça ne n'affecte pas énormément le gameplay. Ça reste relativement en marge de l'expérience de jeu principale, un petit peu comme je pense à Assassin's Creed, où on a des éléments des microtransactions, des éléments, des trucs qu'on peut acheter en plus de notre expérience de jeu classique en multi ou en solo, mais franchement, moi, j'ai joué à quelques Assassin's Creed. J'ai jamais eu besoin d'aller plonger là-dedans. Je crois pas que ça soit indispensable du tout. C'est vraiment pour ceux qui veulent se simplifier tellement la chose que ils sont prêts à payer pour. Ensuite, tout dépend de la manière dont c'est fait, à quel point ça affecte le gameplay. Si c'est bien fait, ça ne l'affecte pas vraiment. Si c'est pas super bien fait, ils poussent les petites manettes jusqu'à ce que ça devienne un petit peu trop compliqué de jouer sans. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas là, mais bon.
Bon, après, si on peut complètement se passer de ce système de cet aspect du jeu, après, c'est à chacun de choisir s'ils veulent prendre l'assurance ou pas. Ouais, c'est comme tu disais, c'est niveau éthique, ça fait un petit peu bizarre.
Ça fait crabe, quoi.
En fait, l'éditeur fait de l'argent avec la frustration du joueur. Ça fait un petit peu ça. C'est-à-dire que si t'en as marre de perdre du staff, tu peux payer, t'en perds plus.
Mais en même temps, c'est toujours comme ça, un jeu vidéo où tu vas toujours avoir une certaine frustration dans ton expérience de jeu. Sinon, c'est pas marrant quand il y arrive. Mais tiens, JK, je crois que t'es revenu.
Ouais, j'espère que ça va marcher, là. Vous m'entendez bien?
Ça a l'air.
Bon, j'ai redémarré de... Bon, ouais, j'ai bidouillé. du coup, j'ai pas trop suivi vos avis.
Ton avis sur cette histoire d'assurance qu'on peut acheter avec de l'argent réel dans Metal Gear?
De manière toute personnelle, ça me désole un peu parce que de toute façon j'ai jamais aimé les microtransactions et les mini DLC, des trucs comme ça dans les jeux. Après quand c'est purement cosmétique, par exemple Destiny ou Valve par exemple avec Dota ou avec Team Fortress, où tu peux acheter des chapeaux, si des mecs veulent lâcher 1€ ou 2€ pour s'acheter un chapeau, c'est leur problème, tu vois. Il y a du moment que ça déséquilibre pas le jeu, ça va. Je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on joue sur la frustration des joueurs et on leur lâche, enfin voilà, ce qui va forcer à faire payer les gens, exactement comme fait c'est comparable à ce que fait un King sur Candy Crush, où forcément t'es frustré parce que t'arrives plus à avancer avancée.
Donc, oui et non, disons que là, là c'est la base avancée qui fait pas partie de l'expérience solo.
Oui, oui.
Donc,
non, je sais pas. Ouais. C'est ça. Et d'un autre côté, il est heureusement qu'il est, en tout cas pour le moment jusqu'à présent, encore tout à fait possible de jouer à Metal Gear de manière complète et d'avoir une expérience riche sans dépenser les 70 euros que t'as lâché pour acheter le jeu. Donc, bon, disons que c'est un peu scandaleux, mais pas tant que ça, quoi.
Ouais, c'est voilà. ça fait cradoc, comme on l'a dit plusieurs fois.
Et tu sens qu'ils testent les limites, en fait.
Ouais. C'est possible. Ouais.
Et le jour où ils vont les franchir, bah, ils se prendront un shitstorm sur la tronche, et puis voilà, quoi.
Ouais, je crois que là, on n'y est pas encore à cette limite.
Ouais, ouais.
Mais, j'évoquais justement les microtransactions dans Assassin's Creed. J'ai l'impression que c'est un poil la même chose là. Il y a des microtransactions dans Assassin's Creed, on peut acheter des Helix Points depuis longtemps. Bon, c'est pas la fin du monde pour le jeu, il est suffisamment bien équilibré pour que...
Non mais c'est tous les gros éditeurs le font, Electronic Arts le fait depuis longtemps, etc. Au début on a tous gueulé, et puis au final, bon, du moment que, pour le moment, encore une fois, l'expérience de jeu n'est pas biaisée à cause de ça, si, entre guillemets, il y a des, excusez-moi pour ceux qui le font, mais s'il y a des pigeons qui dépensent des sous là-dedans, bah c'est leur problème, tu vois, tant qu'ils le fassent, il y a pas de souci, quoi.
Ouais, tu sais, je crois que il y a vraiment des gens qui sont pas... C'est vraiment une question de temps, quoi. Je pense que vraiment le jeu est calculé et calibré pour des gens qui ont un certain temps pour jouer, et il faut, parce que si c'est super facile pour tout le monde, et ben du coup c'est amusant pour personne. Ah, j'aime bien cette phrase. Si c'est facile pour tout le monde, c'est amusant pour personne.
C'est très beau.
Mais du coup, donc il faut un certain degré de difficulté, mais il y a aussi des gens qui aimeraient bien avoir cette expérience et qui n'ont pas le temps à consacrer au jeu pour re-remplir leur base à chaque fois, ou pour débloquer tous les upgrades dans Assassin's Creed ou voilà, tous ces trucs-là. Et donc ils se disent, bon voilà, moi je bosse toute la journée, je vais mettre 5€, 10€ en plus dans mon jeu, et ça va me permettre d'avancer plus vite. Et cette limite est vraiment très... très très ténu, quoi. Donc mais ce que je proposerais aux auditeurs, c'est si vous avez une certaine expérience avec ce système de microtransactions dans Metal Gear Solid, venez nous dire dans les commentaires de l'émission sur frenchspin.fr, venez nous dire ce que vous avez pensé, si vous pensez qu'ils ont dépassé cette limite ténue dont on parle ou pas, ou alors sur Twitter, venez me dire @notpatrick. Je serais curieux de savoir quelle est votre expérience, parce que finalement c'est ça qui est important au final. À propos d'expérience,
juste avant, moi, rapidement, c'est toi qui m'y as fait penser, Patrick, à l'instant. Je veux voir Big Boss avec les chapeaux de Team Fortress. Je propose à Konami de travailler là-dessus.
Metal Gear, dans le genre, un truc un peu rigolo, il pourrait se lâcher sur des costumes pour Big Boss, hein, effectivement.
C'est vrai.
Et les vendre.
Bah, d'ailleurs,
ça se vendrait en plus, hein, c'est ça.
Ah, bah ouais, je suis sûr.
Écoutez, il y a Metal Gear Online qui est sorti aussi. Donc, si ça se trouve, il va y avoir des microtransactions dans Metal Gear Online également, et on pourra habiller nos avatars avec des vêtements incroyables.
Ça serait... Tu veux dire avec un casque de poulpe, peut-être ?
Par exemple.
Comme on le voit sur le screenshot. J'ai vu passer ça, un screenshot d'une image de Metal Gear Online. Ça fait un peu peur, mais pourquoi pas.
Je crois pas qu'on puisse les acheter, ces objets, en fait.
Je
crois pas que ça soit des microtransactions, donc. Tu donnes des idées à Konami, Jeff, c'est pas mal.
Ouais.
Donc je disais, à propos d'expérience, il y a eu ce week-end, et à vrai dire, si vous téléchargez cet épisode, si vous l'écoutez le jour de sa publication, c'est encore possible pour vous d'y participer à la bêta de Star Wars Battlefront, puisqu'elle a été étendue jusqu'au 13 octobre. C'est une bêta que tout le monde attendait, ou presque. Elle est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et il y a des avis vraiment assez tranchés sur cette expérience de bêta. Alors avant de donner la parole à JK qui l'a testé sur PC, je n'en doute pas,
sur PC et sur Xbox One.
Les deux. Très bien.
Parce que moi je raconterai mon histoire après, vas-y.
D'accord. Donc je voulais juste dire que c'est une bêta qui est vraiment là pour tester l'infrastructure, qui a un nombre de modes de jeu assez limité. On a deux cartes en multijoueur avec des objectifs divers, une plus simple, une plus complexe, et un mode en single player, en solo, qui est lui aussi relativement limité. C'est en solo, il n'y a pas une expérience de campagne, il y a juste des des éléments type mode horde, mode survie, ce genre de choses, qui sont en gros à peu de choses près des recyclages de mode multi, un petit peu vite fait. C'est pas une expérience solo incroyable. Donc voilà pour le cadre de la bêta. JK, toi, t'en as pensé quoi de Battlefront sur cette expérience là?
Ouais, alors avant, un disclaimer, je suis un énorme fan de Star Wars, donc je suis pas forcément ultra objectif, parce que pour moi, le jeu fonctionne avant tout et énormément sur moi par rapport à son univers. Là-dessus, c'est le boulot de DICE et pour moi incroyable, vraiment en termes de réalisation, de, d'ambiance sonore, on est complètement, enfin voilà, c'est la première fois que je joue à un jeu Star Wars, je trouve, où on est aussi bien immergé dans l'univers et en plus dans les films. Typiquement, par exemple, le mode de jeu Walker Assault, donc reprend la bataille de Hoth de l'Empire contre-attaque. Donc ouais, on est vraiment plongé, mais avec une puissance qui est que moi j'avais jamais vu, en tout cas dans un jeu Star Wars. Donc ça, ça marche très très bien.
Pour ceux qui connaissent pas la bataille de Hoth, c'est la planète enneigée où il y a les AT-AT, les énormes chiens de machines robots
qui marchent à quatre pattes.
Donc c'est cette bataille là qui est avec les A-wing et les X-wing qui volent partout. C'est un moment assez iconique de la série.
Bah oui, clairement. Puis c'est le Empire contre-attaque est considéré comme quasi souvent comme le meilleur épisode en plus de Star Wars, donc voilà. Et après comment dire, c'est je trouve qu'en matière de FPS pur, les sensations sont excellentes. Je trouve que le jeu a une bonne patate. C'est très arcade, c'est très nerveux. C'est, je trouve que ça, finalement, en termes de plaisir, d'immédiateté, ça se rapproche plus de Call of Duty que de Battlefield. Je trouve, en tout cas, je trouve que les flingues, malgré le fait que ce soit des lasers, il y a des bonnes sensations d'impact. On est vraiment pris dedans. Il y a un système de cartes à débloquer, en fait, qui permet, c'est une sorte de perks, en fait. Ça permet en gros.
C'est de l'équipement, quoi.
Voilà, c'est de l'équipement qui permet de débloquer un jetpack, des grenades, etc. Pour le moment, ça semble assez limité. C'est-à-dire que moi, on arrive très vite au niveau max de la bêta, donc qui était le niveau 5. C'est vrai que c'est répétitif. Enfin, c'est un FPS en multijoueur de toute façon. Donc, et il n'y a pas ce côté stratégique. Enfin, il y aura sans doute pas ce côté stratégique que peut avoir un Battlefield 4 ou un Battlefield. Et là, on est plus proche de Call of Duty, je trouve. En termes de jeu, d'immédiateté, le côté un petit peu arcade. Après, sur moi, ça fonctionne extrêmement bien. Je me suis pas lassé. Vraiment, j'ai joué un bon paquet de matchs, à la fois sur Xbox et sur PC, parce que j'avais un problème au début avec mon PC. Je pouvais pas lancer le jeu, donc du coup, je l'ai testé sur Xbox. Ça tourne pas mal sur console. Hein, honnêtement, c'est super fluide, c'est stable, c'est extrêmement stable. Je trouve. J'ai jamais eu de problème pour trouver une partie. J'ai jamais été déconnecté. Alors que je pensais vraiment galérer. Hein, je trouve que le jeu, le netcode de DICE est très très stable. Donc c'est plutôt bon signe, parce que on se rappelle que quand même Battlefield 4, c'était un peu une catastrophe à la sortie en termes de stabilité. Donc là, ils ont plutôt bien bossé. Donc c'est bien. Donc moi, je suis emballé. Après, comme je l'aurais dit, je suis pas forcément le plus objectif, parce que en tant qu'amateur de Star Wars, ça, en gros, ça va vraiment être un jeu, je pense, avant tout pour les fans de Star Wars, que pour les amateurs de très exigeants de FPS qui ont passé 100 heures sur Battlefield, ils vont très certainement être déçus.
Jeff, ton avis?
Alors je vais juste ajouter quelque chose concernant la technique du jeu. Je trouve que effectivement l'ambiance est géniale, les graphismes et l'optimisation sur PC, en tout cas moi j'ai testé que sur PC, les graphismes et l'optimisation sont fantastiques, mais vraiment. Je joue sur un PC qui est plus tout neuf. J'ai une carte graphique de 4 ans qui m'avait coûté 150€ à l'époque. J'ai un processeur pas du tout de machine de guerre. Je joue en détail faible à 60 FPS tout le long, donc déjà 60 FPS, et en faible, c'est déjà magnifique. Je sais pas quel est le niveau de graphisme sur la Xbox One, sur la PS4. Mais c'est absolument fantastique, rien que en low setting sur PC, quoi.
Faut noter quand même que les deux zones qu'ils ont montrées, donc on est sur Tatooine et
Tatooine pour le mode solo, ouais.
Pour le mode solo et la première carte, en fait, le mode je sais plus comment il s'appelle, le premier mode multi, c'est sur Tatooine.
En fait, c'est sur Sullust. Le premier mode, c'est un mode domination. La planète s'appelle Sullust. Elle est assez peu connue dans les films. Plutôt en paysage lunaire et le troisième, c'est Hoth. Et là, évidemment, la bataille sur Hoth, c'est la plus grande carte.
On n'a pas Andorre, on n'a pas Andorre, parce que Hoth, ça reste, c'est très beau, mais ça reste des grandes zones blanches, voilà, avec de la neige. On n'a pas Andorre où on a la forêt, qui était le moment super méga waouh, du trailer. Donc ça, on n'a pas encore vraiment vu pour de vrai, cette carte qui sera graphiquement hyper exigeante et qui était invraisemblable, dans les trailers de présentation. Mais c'est vrai que déjà, c'est quand même très beau. Pardon, reprendre, Jeff.
Et voilà, donc je voulais juste ajouter ça au niveau de l'optimisation. Moi, alors j'ai testé et en fait ma critique a complètement changé entre mes premières parties et maintenant. C'est-à-dire que au début, en fait, je m'attendais tellement à Battlefront 3 entre guillemets, c'est-à-dire dans la lignée après Battlefront 2. J'étais un grand fan de Battlefront 1 et 2. Et j'ai perdu tous mes repères en fait dans les premières parties que j'ai faites sur Battlefront sur la planète Hoth. J'ai perdu tous mes repères. J'ai trouvé que les objectifs de la carte étaient très compliqués à comprendre. Même la partie en elle-même était difficilement compréhensible. On savait pas trop si on gagnait ou pas, etc. Bon, finalement, au bout d'une dizaine de parties, j'ai fini par comprendre. Il m'a fallu longtemps, hein, mais j'ai fini par comprendre. Et en fait, le cap qui a été difficile pour moi, ça a été vraiment d'abandonner l'idée que c'était un Battlefront 3 et que, à la place de ça, on était parti sur un vrai reboot et de considérer le jeu comme un nouveau jeu, en fait. Et une fois que j'ai passé ce cap un peu difficile, j'ai commencé à apprécier mes parties. C'est très bizarre à expliquer, mais c'est vraiment
je comprends.
Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà, pour moi, les plus gros soucis, parce que bon, je pense que en termes de qualité, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, le plus gros souci, c'est vraiment comment on pourrait dire ça, le fait que c'est extrêmement confus, en tout cas sur la map Hoth. Les objectifs sont pas rappelés.
On sait pas où il faut aller.
Exactement, voilà. Ouais. On sait pas si on est en train de gagner pendant la partie, on comprend pas trop. C'est très difficile pour les nouveaux joueurs.
Moi, j'ajouterais même que on a tendance à mourir dès qu'on arrive dans la carte. Ça peut être un petit peu frustrant quand ça arrive trop.
Oui.
On sait pas très bien ce qui se passe. On arrive, on fait trois pas et puis on se fait shooter. C'est vraiment un petit peu compliqué.
Ça vient du fait aussi que les flingues ont une portée de tir immense. Tu peux shooter des mecs à l'autre bout de la carte si tu les vois. C'est un peu frustrant. Ça peut être frustrant par moment.
Après, les mécaniques de jeu sont, je trouve, très bien pensées. C'est-à-dire que tout marche en termes de charge ou de cooldown. Et ça, je trouve que c'est super bien pensé. C'est-à-dire qu'on part pas avec un setup de deux grenades. C'est-à-dire qu'on a des grenades illimitées, mais qu'on peut lancer une fois toutes les 15 secondes. Mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant.
Pareil pour le flingue qui chauffe quand on tire, toutes les 7 secondes, mais le flingue normal, on peut tirer en rafale et puis au bout d'un moment, ça surchauffe. Donc il faut le laisser refroidir pendant quelques secondes.
Ouais.
On peut le recharger plus vite si on appuie au bon moment, machin. Tout ça est très malin. Ça veut dire qu'il y a pas, on n'a pas à soucier, même au niveau du gameplay, de recharger notre arme. On n'a pas à soucier du fait que on n'aura plus de grenades si on en utilise quelques-unes. Il y a le booster pack est très bien foutu, ça vous donne un gros boost, ça vous permet vraiment de vous projeter assez loin une fois toutes les je sais plus 10 ou 15 secondes ou ce que c'est. C'est vraiment hyper bien pensé pour les débutants, effectivement. Pardon, Jeff, je t'ai interrompu, je te laisse finir quand même.
Non, il n'y a pas de souci. Il y a juste un tout dernier point, mais tu l'as abordé rapidement. C'est effectivement, c'est souvent on spawn ou on respawn, on meurt instantanément et on respawn juste après. Et ça, ça a été une critique qui m'a été faite d'un ami qui était habitué aux anciens Battlefield et aux anciens Battlefront. C'est que on enlève toute la dimension stratégique du il faut absolument que je reste en vie. C'est-à-dire que finalement, on ressent pas aucun désavantage en fait si on meurt. C'est-à-dire qu'on sait qu'on respawn instantanément en fait. Et du coup, ça incite les gens à jouer beaucoup plus
à faire un peu n'importe quoi.
Voilà, et à faire n'importe quoi. C'est voilà. Enfin, c'est voilà vrai. Pour moi. Après, sinon, les sensations de jeu sont très bonnes. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà, bah, j'ai fini ma critique.
Non, mais très bien. Il y a un ami de l'émission qui s'appelle Aymeric Lallet, que vous connaissez très bien, j'en suis sûr, qui a fait des petits commentaires sur le jeu. Et je trouve qu'il a eu une description qui était excellente de cette bêta de Star Wars. Il a dit que c'était un jeu popcorn. Et effectivement, pour moi, c'est Star Wars popcorn. C'est un truc facile à prendre en main, qui est plaisant, auquel il faut pas penser trop longtemps, parce que ça a pas forcément une profondeur incroyable, mais vraiment c'est agréable à jouer. L'ambiance, tu disais, JK, que c'est sans doute un cas particulier pour toi et que ça joue pour toi. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont comme toi et qui sont tout à fait séduits par l'ambiance Star Wars. Et encore, je le répète parce que ça vaut la peine d'insister sur la chose, elle est tellement bien retranscrite, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être au milieu de bataille de Hoth, quoi. Par moment, on va monter dans un A-Wing, dont les contrôles sont un peu bizarres d'ailleurs. Un A-Wing ou un X-Wing. Non, c'est un A-Wing ou un Interceptor.
Il y a aussi des X-Wing, je crois.
D'accord.
Il y a donc, des X-Wing, oui.
Ouais, bon, bah voilà. Mais tout ça, par exemple, c'est jamais compliqué. C'est des bonus qu'on va trouver quelque part sur la carte. Si on l'attrape, ouais, voilà. Et ben on se met dans le X-Wing.
Et on y va.
Il y a jamais. Ça reste accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir s'amuser. C'est un peu répétitif, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui disaient bon, au bout d'une heure, ça va, on a compris le truc, c'est terminé. Mais effectivement, il y a que deux modes de jeu, donc ça explique peut-être aussi la chose. Il n'empêche, la question reste quand même entière. Est-ce que ça vaut le prix d'un jeu complet, à votre avis, pour cette expérience multi uniquement, s'il faut aller sortir 60 ou 70 €? Est-ce que ça vaut ce prix-là, quoi? Oui, c'est sympa, oui, c'est cool, oui, c'est bien fait, mais est-ce que ça vaut le prix d'un jeu normal?
Bah ça va dépendre de l'intérêt que tu as à progresser, parce que je pense qu'il faudra voir jusqu'où tu pourras progresser, effectivement, et ça va dépendre de l'intérêt que tu as dans l'univers et dans la volonté tout simplement de t'amuser peut-être avec un groupe d'amis réguliers, voilà, comme
n'importe dire, quel comme, jeu multijoueur,
voilà,
quoi.
Comme Counter-Strike, c'est évidemment le cas par excellence du FPS multi qui est toujours là, mais du spectre, voilà. T'as Titanfall par exemple, qui est un super jeu pendant 10 heures et que tu lâches au bout de 10 heures parce que t'en fais le tour très vite. C'est vrai que souvent, en discutant avec les gens, en voyant sur Internet, tout le monde dit ça va être le syndrome Titanfall, le Battlefront, on va vraiment s'amuser dessus pendant 10-15 heures et après on va le lâcher. Moi, même si c'est 10-15 heures, il y a des jeux que tu payes 70 € qui durent 10-15 heures, ça me choque pas tant que ça. Voilà. Après, pour FPS multi, c'est sûr que c'est un peu dommage. C'est-à-dire que si dans 6 mois, il y a plus personne qui joue et que les serveurs sont vides, ce sera vraiment dommage. Après, honnêtement, je fais confiance à DICE. Ouais, c'est pas probable. Et puis, je fais confiance.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
DICE y est pour régulièrement nous sortir la petite map qui va bien, le truc qui va faire rêver les fans, qui vont lâcher 10 € et moi le premier pour acheter un pack de cartes de tirer des
qu'on
films.
On peut voir dans le film, ouais, dans le film,
voilà,
qui
et
sort
dans
un
l'épisode
mois plus
7.
Tard,
bah, voilà, ouais. Voilà, n'oublions pas qu'il y a l'épisode 7 qui arrive, ça va lancer la folie Star Wars qui est déjà bien lancée, et il y aura sans doute des DLC basés sur le film. Ouais. Je pense que c'est un jeu qui va être entretenu pendant des années, quoi.
Et puis ouais, bon, et puis là, effectivement, on ne parle que de la bêta. Il faudra attendre les premiers tests qui arriveront. Il sort quand? C'est en novembre, n'est-ce pas? Début novembre. Et puis, moi, je dirais peut-être attendez même quelques jours avant de l'acheter, parce que sur ce genre de jeu à énorme diffusion, généralement, au bout d'une semaine, il passe à 50 €, quoi. Donc, peut-être que ça vaut la peine d'attendre un petit peu avant de se précipiter.
C'est possible.
Ouais. Mais, bon. Je rectifie sur le 19 novembre.
Ah, pardon, ok.
Et juste, alors je rajoute un truc. À la Gamescom cette année, j'ai pu tester un autre mode de jeu qui était le mode dogfight. En fait, en gros, c'est que des combats de vaisseaux, donc X-wing contre
oui,
TIE Fighter, etc.
Oui, il y a celui-là aussi, c'est vrai.
Ouais. Et donc il est pas dispo dans la bêta, mais je l'avais essayé à la Gamescom. Très honnêtement, c'est pour le coup c'est sympa, mais là c'est vraiment un mode mineur. C'est-à-dire que tu vas t'amuser 20 minutes vite fait entre deux grosses parties quoi. Mais c'est bien fichu, c'est plutôt maniable. Voilà, c'est. Mm. Ça fait le job, mais c'est pas le truc le plus intéressant, je pense, du jeu.
Ouais, c'est sûr. Bon, donc voilà pour ces petites impressions sur la bêta. Il y a une autre bêta qui a eu lieu il y a une semaine, si je ne m'abuse. C'était la bêta de Need for Speed. Vous savez qu'on avait évoqué la bêta de Need for Speed plusieurs fois, le reboot de Need for Speed plutôt, pardon, en se disant est-ce que ça va être un jeu qui va nous ramener, ou en tout cas me ramener à moi dans l'esprit de Need for Speed que j'aimais beaucoup à l'époque de Need for Speed Underground il y a déjà plus de 10 ans, je crois. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester, Jeff. Je crois que non, JK peut-être pas non plus. Je crois que je vais être le seul. Non.
Non, alors moi j'ai découvert qu'elle était sortie aujourd'hui grâce à toi, quoi. Je savais même pas.
Exactement pareil.
Ouais, c'est pas forcément
c'est
le
c'est
jeu.
C'est un peu triste parce que, ouais. Bah, c'est pour dire à quel point c'est une licence que tout le monde est en train d'oublier. Quoi.
Bon, disons que c'était une bêta relativement discrète. Need for Speed, la version qui va sortir donc cet hiver, pour ceux qui se souviennent pas, c'est la version où il y a des éléments filmés, mais filmés en live avec des vrais acteurs et tout. Et c'est un petit peu l'ambiance Need for Speed. Forcément, l'ambiance Need for Speed, ce que je veux dire, c'est l'ambiance Fast and Furious. Ils ont vraiment essayé de reproduire ces impressions qui sont entre le drôle et le on a des grosses voitures et on est des badass quoi. Et c'est un petit peu kitsch, un petit peu ridicule, mais en même temps dans Fast and Furious ça marche. C'est le bon côté du kitsch, le bon côté du ridicule. C'est marrant, il y a une certaine affection qui se crée avec les personnages, etc., etc. Dans Need for Speed, franchement, c'est bien fait. C'est les transitions entre les acteurs et la partie jeu est bien foutue. Les acteurs sont bons. Ils sont franchement, ils sont pas incroyables, mais ils sont jamais mauvais. Il y en a qui sont plus ou moins bons, mais ils sont franchement pas mal. Ils ont pas mal de charisme. Mais j'arrive pas à décider si c'est du bon côté du kitsch ou du mauvais côté du kitsch. Parfois, je me dis, sur la même scène, je vais me dire, ah, oh, mais là, c'est quand même un peu couillon, ça fait un peu ridicule. Et parfois, je me dis, ouais, mais quand même, c'est marrant, quoi. Ouais, mais quand même, c'est à ça, ce côté, attachant. Donc, voilà, je sais pas, j'arrive pas à décider. Et encore une fois, c'est qu'une bêta, donc il faudra attendre le jeu complet. Encore que la bêta était quand même assez complète. Pour le jeu en lui-même, qui est quand même un élément important, c'est un jeu en open world, comme on en a vu beaucoup dans cette catégorie, où on peut créer des missions par-ci par-là. On a le mélange entre les missions multijoueurs et les missions solo. Il y a les menus sont bien foutus. On a un système de téléphone mobile où sur lequel les gens vont nous appeler et nous proposer des missions. On va devoir aller quelque part pour les enclencher, etc., etc. Je sais pas si moi ça me, enfin cette expérience bêta en tout cas m'a pas motivé à me relancer dans Need for Speed. Il y avait pas la même, peut-être que c'est moi qui ai changé, que les jeux sont moins à la mode, mais ça a pas recréé cet amour que j'espérais pour Need for Speed. Donc bon, on verra quand le jeu sortira, mais c'est un bon jeu de bagnole, mais je pense qu'il faut déjà être fan de jeux de bagnole pour et puis de ce genre d'ambiance hyper tuning, ouais, on est les plus forts avec nos gros moteurs, machin. C'est pas du jeu réaliste, c'est pas du jeu course, c'est vraiment du jeu néon, tuning, drift, voilà quoi. Donc bon, je sais pas si mes impressions sont très claires, mais le fouillis retranscrit un petit peu l'ambiance du jeu lui-même aussi. Donc voilà pour Need for Speed en version bêta. Encore une bêta, Street Fighter V, la deuxième bêta devrait avoir lieu du 22 au 25 octobre. Il y aura des nouveaux personnages jouables, mais plus les persos de la première bêta. Donc là, on aura Rachid, Nekali, Ken, Vega, Ermika et Karine qui seront jouables. Zangief et Laura, les deux derniers persos annoncés, ne seront pas jouables, eux. Et ça sera une bêta qui sera jouable sur PC et sur PlayStation 4 avec du crossplay. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire à la bêta. Il y a, vous trouverez les détails pour comment s'inscrire un petit peu partout sur le net. Entre parenthèses, si vous étiez déjà inscrit à la première, vous aurez accès à la deuxième automatiquement. Donc c'est pas la peine de se précipiter. Tony Hawk Pro Skater 5 est sorti.
Ah, alors, je vois.
JK, je sens que tu brûles de nous parler de ce jeu incroyable.
En fait, je me suis tellement marré à regarder des vidéos, notamment sur jeuxvideo.com, il y a eu un gaming live. C'était à la fois drôle et à la fois d'une tristesse. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est-à-dire que Tony Hawk, là, je pense que, enfin, quand il a vu le résultat, il s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, a priori, la bonne nouvelle, c'est que Activision n'aura plus la licence Tony Hawk à la fin de l'année, je crois, parce qu'ils avaient un contrat de plusieurs années. Donc
ouais, c'est vraiment l'occasion de ressortir dernier jeu avant que la licence expire, quoi.
Mais c'est minable. Enfin, déjà, moi, j'avais vu des vidéos du jeu il y a un mois ou deux, peut-être deux, trois mois. C'était affreux. On disait, bon, c'est peut-être une version preview, c'est peut-être un truc non finalisé, mais tu te dis, mais c'est d'un niveau d'un jeu PS2 quasiment, quoi. C'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est d'une tristesse. Le jeu est beaucoup moins riche qu'avant. Enfin, moi, j'aimais bien les premiers Tony Hawk, notamment le 3 sur PS2. Je l'avais rincé, j'avais adoré. Après, bon, ça fait quand même un moment que j'ai un peu lâché la série, hein, mais voilà. Et là, clairement, tu te dis, mais à la limite, je pense que c'est le genre de jeu en Twitch ou en YouTube. Ça peut être très drôle parce qu'il y a, je pense qu'il y a des YouTubeurs qui peuvent se marrer à faire des vidéos sur ce jeu, quoi.
Ah, mais les vidéos YouTube de Tony Hawk 5 elles marchent du tonnerre. Quoi,
ah, c'est ça, voilà.
C'est exactement ça. C'est que les gens se marrent à jouer et à jouer sur les bugs et voilà.
C'est presque à se demander. Vas-y.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement le jeu est buggé de partout, et ils ont déclaré, on va corriger les problèmes, vous inquiétez pas, on est sur le coup, désolé. Mais non seulement il est buggé de partout, mais en plus, il est pourri, quoi. Il n'a aucun respect pour les précédents. Enfin, Jeff, je crois que tu
c'est assez affligeant. Hein. Mais après, c'est pour moi c'est exactement ce qui se passe quand on pousse un peu trop le curseur du budget vers le marketing et pas sur le produit. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'il y a eu tellement de pubs de Tony Hawk Pro Skater 5 partout. On en a vu partout. Il y avait j'ai l'impression qu'il y avait plus du tout de budget pour le développement du jeu, quoi. J'ai vu des vidéos et j'ai vu un petit peu les news dessus. Je crois que c'est la première fois de l'histoire du jeu vidéo que je vois ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un patch day one ou quelques jours après qui fait en fait plus d'espace disque que le jeu lui-même.
Ouais.
c'est hallucinant. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, quoi. Et ce qui est encore plus affligeant, c'est qu'il y a eu l'échec de Shred il y a 5 ans. Pour ceux qui s'en souviennent pas, et c'est peut-être compréhensible, c'était le Tony Hawk où on achetait une planche qu'on mettait dans son salon et on jouait dessus. Même si le concept, il y avait de l'idée, le jeu a été un échec complet. Et 5 ans après, ils avaient l'occasion de se racheter, de faire le dernier jeu Tony Hawk. C'est le dernier jeu Tony Hawk sous Activision et non, quoi.
Et non. Je crois que effectivement, et non, c'est ce qui restera dans le.
Ça me semble, ouais. Une
bonne dans l'idée, j'arrive même pas à avoir de la compassion pour les développeurs. En fait, la seule compassion que j'ai, c'est à la limite pour Tony Hawk, le sportif, qui au fil des années voit son nom complètement sali. C'est une horreur. Moi, j'aimerais pas être Tony Hawk aujourd'hui, quoi.
Oui, c'est vrai que bon, au niveau du jeu vidéo, en tout cas, c'est clairement.
Oui, sinon, je pense que.
Je pense que ça va pour lui par ailleurs, mais c'est vrai dans cette industrie, il est. Enfin, le pauvre, il y est pour pas grand chose finalement, mais bon.
Je voulais juste ajouter un tout dernier truc quand même pour voir l'immensité de la plage de bugs qu'il y a. Il faut savoir que sur Xbox One, les premiers jours, le jeu plantait sur la vidéo d'introduction d'Activision. Voilà, j'ai juste
tout
ça
à dire. Dit.
Et pourtant, on n'en attendait pas grand chose de ce jeu, hein, mais il a réussi à être encore plus pourri que ce que les gens imaginaient, quoi. Donc, bon, c'est dommage.
Ouais, c'est ça qui est fort.
Tiens, JK, toi qui es un PCiste convaincu, encore une fois, parle-nous de The Beginner's Guide.
Oh là, comme ça là.
Ouais.
Tu veux que je te parle de The Beginner's Guide là comme ça à l'improviste?
Ou alors je le fais.
Là, mais... là c'est une tâche impossible. Non alors juste dire que bah déjà c'est le jeu, c'est le nouveau jeu de la personne qui a écrit The Stanley Parable, qui était un jeu indé qui avait fait grand bruit il y a 2 ans je crois à peu près. Donc c'est très à alors, la fois très, ouais. très semblable, à la fois très différent.
The Stanley Parable, qui est écrit, et je le sais de tête, bien sûr, sans regarder mes notes, par Davey Vreden.
Oui, le nom, je te laisse le dire.
c'était d'abord un mode sur
oui, c'est vrai.
Half-Life 2, qui est sorti ouais. en tant que mode indépendant, puis qui est ressorti en jeu. Et je crois, bon, je parlerai de Stanley Parable après, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais vas-y, fini.
Ouais, ouais. Non, et alors, juste pour résumer le pitch, déjà pour vous montrer le côté très méta et what the fuck du jeu. On suit en fait on suit le narrateur du jeu qui est en fait le créateur du jeu, qui nous parle d'un autre créateur qu'il a connu dans le passé et qui nous montre des bouts, des morceaux de jeu que ce créateur a conçu. Et à travers cette espèce de leçon de game design, il nous raconte ses travaux, il nous raconte la vie de cette personne, de ce développeur qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé. D'ailleurs, jusqu'au bout, je me suis pas renseigné. Est-ce que ce Coda, il s'appelle Coda dans le jeu. Dès le début, c'est dit, hein, je spoil rien. Il a vraiment existé et
c'est même pas si important au final. Hein.
Voilà, oui, on s'en fout. Et ça part en thérapie du créateur indé, en truc très introspectif. C'est étonnant. J'arrive pas à savoir honnêtement ce que j'en pense. C'est difficile parce que ça se fait bon, ça se boucle en une heure et demie. Des fois, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer ? Pourquoi ? Là où The Stanley Parable, je trouve, avait quand même un côté brillant par ses multiples arcs narratifs que tu pouvais déclencher en fonction des directions que tu prenais. Là, on est dans un truc totalement linéaire et il n'y a aucune rejouabilité, entre guillemets. Enfin oui, The Stanley Parable, tu pouvais le faire 15 fois, tu avais 15 fois une histoire différente. Là, c'est pas du tout le cas. On n'est pas que sur une sorte d'installation d'art contemporain.
Artistique, ouais.
Interactif, voilà, c'est ça. C'est très intéressant, mais c'est difficile à conseiller. Enfin, je vous êtes pas plus avancé. Je suis désolé, chers auditeurs, mais voilà.
Alors, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que la raison pour laquelle je voulais parler de ce jeu, c'est que c'est The Stanley Parable, en fait. Et c'est difficile, effectivement, de recommander The Beginner's Guide. Je crois qu'on ne peut le recommander qu'aux gens qui ont aimé The Stanley Parable. Et là, par contre, ce qui est facile, c'est de recommander The Stanley Parable à tout le monde. The Stanley Parable est un jeu qui est un jeu, mais qui est même difficile d'appeler un jeu, qui est un plaisir d'expérience pour n'importe qui aime un peu les jeux vidéo. C'est quelque chose, là encore, d'assez introspectif, d'assez expérimental. Je pense que à la fois The Stanley Parable et The Beginner's Guide sont ce qui se rapproche le plus dans le monde de l'art en jeu vidéo. C'est vraiment ça, quoi. C'est quelque chose qui est complètement à part, qui ne peut exister que en jeu vidéo, et qui est quelque chose de véritablement artistique avec une intention d'auteur. Là, je vous parle pas d'un jeu qui est genre un jeu d'auteur genre indie comme je sais pas moi Hotline Miami ou Braid ou Brothers ou machin. Non, ça reste des jeux. Là, on a de véritables œuvres d'art qui sont des trucs hyper réflexifs, comme on disait, introspectifs, qui parlent à la fois de ce que c'est qu'être un designer de jeux vidéo, de ce que c'est qu'un jeu vidéo, de la place du joueur dans cette équation. The Stanley Parable, c'est un jeu, si vous n'y avez pas encore joué, il faut absolument, absolument y jouer, quoi. C'est un truc vraiment incroyable. Pour vous résumer ça très rapidement, on est, en fait, le jeu commence et il y a un narrateur qui va dire Stanley était assis à son bureau tous les jours de la vie. Et il rentrait sur le clavier les mots qui apparaissaient sur son écran. Sauf qu'un jour, il n'y a aucun mot qui est apparu. Et là, on rentre dans la peau, entre guillemets, en FPS, enfin, en FP, il n'y a pas de shooter, de Stanley. On est assis au bureau dont parle le narrateur, et le narrateur dit, et donc, Stanley a décidé de se lever et de sortir de la pièce. Et là, c'est à nous de choisir de sortir de la pièce ou non. Et à partir de là, il s'instaure un jeu entre le narrateur et notre action qui va évoluer de 1000 manières différentes possibles et qui sont véritablement édifiante. Vraiment, je pense qu'on peut utiliser ce terme. The Beginner's Guide va un petit peu moins loin, mais c'est vraiment un prétexte pour moi. La sortie de ce Beginner's Guide qui est sorti en 2 jours, le développeur l'a annoncé, il était dispo 2 jours plus tard, sans autre forme de procès, alors que The Stanley Parable est hyper connu et il aurait vraiment pu faire un grand tabac médiatique et un grand battage médiatique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais je crois qu'il a assez mal vécu sa célébrité.
Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est marrant parce que ça fait vachement écho dans le jeu. A priori, après le succès de Stanley Parable, il s'est retrouvé complètement. Enfin, il s'est mué dans un mutisme, une sorte de mutisme. Où il voulait pas donner une interview, il voulait parler à personne. Il était un peu gêné parce que du peu qu'il en a dit, c'est qu'on lui a prêté des prétentions artistiques et intellectuelles que lui n'avait pas en créant le jeu. Et il voulait pas forcément faire tout ce que les gens ont dit.
C'est le propre des œuvres d'art. Une fois qu'elles sont sorties de l'auteur, elles lui appartiennent plus. Et
exactement.
D'une certaine manière, il y a aussi ce qu'en font les gens qui la font vivre et qui la font exister. Donc,
c'est ça.
Bon, bref, si vous n'avez pas compris... Ouais, pardon, Jeff.
J'avais une question plus pour JK, qui connaît un peu plus Beginner's Guide. Moi, ce que j'avais aimé particulièrement dans Stanley Parable, c'était le côté un petit peu critique des jeux vidéo, dans le sens un petit peu humoristique. Je prends un exemple, par exemple, sans trop spoiler, je sais qu'à un moment, on jouait Stanley et on commençait à cliquer sur une porte, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis le narrateur nous disait « Oh, peut-être qu'il y aura un achievement si tu cliques 50 fois sur la porte », et on se mettait à cliquer 50 fois sur la porte. Il y avait un côté critique du jeu vidéo comme ça. Est-ce qu'on retrouve des choses comme ça dans Beginner's Guide ou pas du tout?
Non, beaucoup moins. Déjà, il y a pas forcément d'humour. Non, on est vraiment plus dans une sorte de réflexion sur le game design. Donc c'est vraiment encore plus pointu. Où là, effectivement, cette année Parable était plus une sorte de pastiche de jeu vidéo où se moquait gentiment des travers du game du jeu vidéo, des mécaniques de jeu. Là, The Beginner's Guide, déjà il y a à peine, la partie jeu en elle-même est quasiment inexistante. Il y a 2-3 énigmes de temps en temps qui sont tout le temps les mêmes. Il y a pas d'action. On est sur vraiment un trip narratif pur qui explore le travail d'un game designer et à travers ce travail, on explore aussi son caractère, sa psyché et tu sens que le l'auteur fait lui-même sa propre psychanalyse en racontant l'histoire de ce coda, de ce designer, quoi.
D'accord. Ok.
Bon, donc voilà pour The Beginner's Guide.
Mais c'est intéressant. Je sais pas du tout si on a donné aux gens envie d'y jouer, mais
ouais, peut-être qu'on est tellement prudent. On est tellement prudent que pour le coup, les gens ont l'impression que c'est pas un bon jeu. Enfin, bonne expérience ou que c'est pas intéressant. Je crois que c'est intéressant. C'est juste pas pour tout le monde, quoi.
C'est le genre de jeu où la frontière entre le génie et la prétention est très très faible. Et tu te dis c'est quand même super prétentieux comme jeu machin, mais en même temps tu te dis par moment c'est quand même génial la façon dont il pose des questions sur les jeux, etc. Donc voilà, on peut essayer le. Après c'est sûr que le jeu est vendu 10 €. Et encore une fois, un côté très terre à terre, mais est-ce qu'une expérience comme ça vaut ces 10 €?
C'est le prix d'un film, 1h30 pour 10 €.
Voilà, exactement. Voilà.
Bon, un jeu qui va certainement beaucoup plus plaire à tout le monde, c'est Far Cry Primal, qui a été révélé il y a quelques jours par Ubisoft, un nouveau Far Cry qui se passe au Néolithique, il sortira en 2016. Je me dis que c'est une décision intéressante pour rafraîchir un petit peu la série Far Cry, de nous prendre carrément dans un truc assez inattendu. En même temps, le Néolithique, ça nous fait presque un petit peu penser à Horizon Zero Dawn, le gros jeu présenté par Sony à l'E3 cette année. Mais bon, évidemment, ils avaient commencé à le développer bien avant, hein, mais je trouve ça pas bête pour renouveler Far Cry, effectivement, plutôt que de nous faire encore une sorte d'étudiant aventurier dans une île de l'Asie du Sud-Est ou Dieu sait quoi. Pourquoi pas des impressions sur Far Cry Primal qui a été donc révélé il y a quelques jours.
Alors comme tu l'as dit, c'est très intéressant, je trouve le setting et moi je me souviens pas trop avoir déjà vu ça. Donc ça me rend très curieux. Et j'ai adoré Far Cry 4, pour moi ce sera un achat obligé, juste pour la curiosité et parce que j'aime le style de jeu, voilà.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment curieux. Je trouve que ils ont souvent été bons dans les spin-offs de Far Cry. Pour le coup, pour le 3, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Far Cry
Blood Dragon,
qui n'a strictement rien à voir en termes d'ambiance, mais moi que j'avais adoré, ne serait-ce que pour son univers qui reprenait voilà tout. C'était un pastiche de films de science-fiction des années 80, ultra kitsch, avec une BO que j'écoute encore régulièrement. Enfin voilà, qui est génial. Là, on est évidemment dans un truc totalement différent. Mais s'il y a un petit côté survie, alors à la fin du trailer, il y a quelques images qui m'ont fait penser énormément à un jeu qui s'appelle The Forest, qui est toujours en early access, qui est un jeu où on doit survivre en fait sur une île avec il y a des cannibales et on doit construire son abri, se protéger de ces cannibales, etc. Il y a un côté horrifique. J'espère que ce côté horrifique peut-être se retrouvera dans un jeu comme Far Cry Primal, en plus du fait de devoir chasser, etc. Je suis très curieux. Après, je sais pas du tout si ça va être réussi. En même temps, on n'a rien vu, mais je suis très curieux d'essayer ça.
Et je recommande aussi à tout le monde de voir le trailer vraiment pour vraiment se rendre compte du jeu. C'est-à-dire que il y a un moment où on va chasser le mammouth, mais on va chasser le mammouth avec sa lance, quoi. Faut voir le trailer.
Ouais, après, moi, j'ai peur de ça, justement, ce genre de combat, que ce soit une suite de QTE un peu chiant. Est-ce qu'il y aura vraiment un vrai travail sur combattre des titans comme ça, enfin des titans, des monstres, des animaux gigantesques. Je sais pas comment ils vont gérer ça, quoi.
À voir. Ensuite, on a une nouvelle étape dans l'invasion Yo-Kai Watch du monde occidental. Yo-Kai Watch, vous le savez, c'est cette sorte de jeu qui est souvent comparé à Pokémon. Alors moi, j'y ai pas joué, hein. Bien sûr, c'est un jeu très très japonais et très très japonais qui a un énorme succès et beaucoup de. Enfin, j'ai lu des commentaires disant que en fait, c'était un petit peu plus proche du jeu de rôle que de du strict Pokémon. Mais bon, bref, Yo-Kai Watch. Et la grande coqueluche des enfants au Japon, et ils sont en train de se préparer à envahir l'Occident. La version américaine de Yo-Kai Watch est en cours d'arrivée en novembre. On est en 2016 pour la version européenne, mais c'était juste pour signaler que Level 5 continue à préparer son invasion. On a des animés, des séries télé, etc. etc. Pour info, Yo-Kai Watch, pour ceux qui auraient oublié, j'en parle de temps en temps, le principe c'est qu'il y a un petit garçon qui trouve une montre qui lui permet de capturer et d'utiliser des monstres, des fantômes en fait, qui sont partout dans le monde et en particulier au Japon dans sa version japonaise. Voilà, c'était juste pour signaler que ça arrive. Deus Ex, la campagne de précommande de Deus Ex Mankind Divided dont on avait parlé il y a quelques épisodes dans cette émission a été annulée par Square Enix. Vous vous souvenez qu'on en avait parlé en des termes pas très flatteurs. Ils ont écouté les retours du public. Entre parenthèses, plusieurs personnes avaient signalé que c'était pas la première campagne à fonctionner sur ce mode-là, mais que pour une raison différente, enfin une raison inexpliquée, elle avait fait beaucoup plus de bruit que les autres. Je crois qu'il y avait quelques éléments différents quand même des autres campagnes similaires précédentes, mais peu importe. Tous ceux qui ont précommandé le jeu auront droit à tous les bonus désormais et en plus tous ceux qui achèteront la version Day One du jeu auront aussi droit à tous les bonus de précommande. Donc voilà, ça règle le problème, il y aura plus ce type de promotion un petit peu critiquable, on va dire.
Bah c'est une bonne nouvelle déjà qu'ils aient écouté la communauté, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de développement là du jeu il y a pas très longtemps. J'ai même pu y jouer rapidement, j'ai pu l'essayer, et ce qui était hyper intéressant et surprenant, je trouve, c'est la première fois que je vois ça dans un studio, c'est que ils sont énormément à l'écoute et en demande de retour. C'est-à-dire que nous à chaque fois ils nous demandaient, à chaque personne qu'on croisait, alors qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien, et vraiment ils surtout ils étaient en demande de critique. Donc je pense que pour ce jeu, je sais pas s'ils ont peur de pas bien se vendre, etc. Parce que c'est pas forcément une licence qui est ultra vendeuse. Mais donc du coup, je pense qu'ils ont vraiment une exigence en termes de qualité. Et je pense qu'ils écoutent du coup pas mal les joueurs et les journalistes et du coup parce qu'ils prenaient des notes et tout quand on leur disait ce qui allait pas, etc. On sent qu'ils sont hyper impliqués et peut-être parce qu'ils ont un peu peur que ça se plante. Je leur souhaite pas, hein, mais voilà. Donc du coup, cette annulation du système de précommande, je pense, montre un peu qu'ils sont quand même pas mal à l'écoute chez Eidos Montréal de la communauté.
C'est vrai qu'on peut avoir tendance à être un petit peu cynique sur ce genre de truc, genre voilà, c'était tellement pourri qu'ils ont dû l'annuler, machin.
Ouais, ouais.
En même temps, bon, c'est bien. Je veux dire, s'ils écoutent pas la communauté, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils écoutent justement ce type de retour. Donc
ouais, c'est ça. Bon, ça arrive à tout le monde. Enfin, qu'un service marketing ait une idée à la con. Ouais. Voilà, ouais. Ils ont une idée à la con. Ils se sont rendu compte que c'était nul. Ouais. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont très attachés à la qualité finale du jeu. Je sais pas si ça va être bon. Hein. Pour le moment, c'est difficile à dire. Mais vraiment, ils font vraiment ce qu'il faut pour que ça marche. Quoi.
Ça me réconcilie un petit peu à ce que tu dis, JK. Ça me réconcilie un petit peu avec le studio, du coup.
C'est vrai qu'après Sif, en plus, je pense qu'ils sont, ils se sont un petit peu, ils se sont un petit peu pris un truc mauvais dans la tête, parce que Sif, c'était eux qui ont développé le nouveau Sif, le dernier Sif qui était vraiment très mauvais. Alors c'était une autre équipe, hein, c'était pas la même équipe que l'équipe de Deus Ex. Là, ils ont trouvé on a la même base au niveau des créatifs sur Deus Ex Mankind Divided. Alors qu'ils ont fait un Deus Ex, c'était très bon. Hein, en l'occurrence, le Human Revolution était super, mais malgré tout, ils ont vraiment une sorte de ils sont très humbles par rapport à ça et ils sont hyper 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 en demande de retour, quoi.
On n'a pas vraiment parlé de la controverse qui entoure Star Citizen ces derniers temps, parce que franchement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de on-dit et qu'on ne sait pas vraiment le fond de l'affaire. En fait, il y a beaucoup de rumeurs d'enquêtes journalistiques qui laissent penser que Star Citizen, le jeu le plus crowdfundé de l'histoire du monde, a des problèmes financiers. Certains disent que ils auraient déjà utilisé une énorme partie des 82 millions de dollars de budget qu'ils ont grâce au crowdfunding. Il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement mécontents parce que le jeu d'origine, en fait, avant le succès interplanétaire qu'il a connu, était un jeu beaucoup plus modeste. Et les gens qui avaient fondé le truc, enfin qui avaient financé le truc au début, se plaignent que le résultat final n'est pas du tout ce qu'ils voulaient et qu'ils voulaient quelque chose de plus simple, mais qui au moins serait sorti. Ça fait un bon moment qu'il a été crowdfundé, ce jeu. Et en plus, il est tellement ambitieux aujourd'hui, entre les modules de commerce, de combat spatial, de FPS. Enfin, c'est le jeu qui réunit 5 jeux hyper ambitieux l'un dans l'autre. Bref, on sait pas très bien où se situer, donc je veux pas rentrer non plus dans cette polémique parce qu'il y a rien de confirmé aujourd'hui. Mais au moment où il y a cette polémique, ils ont annoncé que pour Squadron 42, le module FPS du jeu, ils avaient engagé les services d'acteurs bien connus, à savoir Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman et Andy Serkis, pour faire la motion capture et le voice acting pour cette partie du jeu. Donc voilà, je sais pas s'il y a des commentaires à dire sur ça.
Ça va alimenter la polémique encore plus. Alors c'est un très beau casting, mais est-ce qu'il y avait besoin d'un casting comme ça?
Combien ça coûte tout ça, quoi?
Ouais.
Par contre, ce qui est rigolo, c'est que Mark Hamill, du coup, revient, parce que Mark Hamill, il avait quand même joué dans Wing Commander 3. ouais. À l'époque, c'était un jeu avec des cinématiques en full motion vidéo.
Full
donc
motion,
avec des vrais.
FMV
avec des fonds verts et des mauvais acteurs. Et Mark Hamill jouait dedans à l'époque où Mark Hamill était quand même un petit peu ringard, faut le dire. Maintenant, il est revenu grâce à Star Wars, mais voilà. Et puis, grâce au Joker aussi. Du coup, voilà, c'est rigolo. Après, effectivement, ça va pas forcément. Mais là, j'ai hâte qu'il y ait il va y avoir une convention dédiée à Star Citizen. J'espère qu'ils vont un peu rassurer les gens en montrant du jeu, en montrant des trucs, des promesses. Enfin, des promesses, ils en font des promesses, mais en montrant du concret, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'il y a, une sorte de flou, là, autour du jeu qui est vraiment pas rassurant. Même s'il y a sans doute énormément de choses qui ont été montées en épingle, qui ont été exagérées, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'il y a un vrai problème de développement, de ce que j'en sais chez Claudie Payne Game, et voilà.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que un jeu aussi ambitieux, forcément, ça va pas se faire ni en un an ni en deux ans. Et puis le processus de développement de jeux comme ça, c'est que tu développes quelque chose pour que ça soit bien fait. Justement, tu le développes, tu vois si ça marche, et puis tu changes et tu corriges et t'enlèves des morceaux, tu pousses plus à fond certains morceaux. C'est évidemment, ils vont pas développer un truc aussi ambitieux avec autant de modules en deux ans et puis c'est terminé. Mais on a d'un côté ceux qui disent bah oui, mais moi je m'en fous de tes quatre modules différents. Moi, je voulais juste l'équivalent de Wing Commander, et c'est ça que j'ai financé.
Ah ouais, c'est ça.
Et de l'autre côté, on a ceux qui disent mais le type, il a pété les plombs, il y a plein d'accusations qui volent. Il y a certaines personnes, on a l'impression qu'il y a une sorte de croisade d'un développeur en particulier qui se bat contre Chris Roberts spécifiquement, et du coup, ça lui fait une certaine notoriété. Donc, je vais même pas dire son nom, mais bref, peu importe. Mais donc, ouais, il y a cette sorte de crise de relations presse, on va dire, et de marketing, de relations publiques pour Star Citizen. On espère que ça s'arrêtera au niveau de la crise de communication et qu'une fois qu'on commencera à voir effectivement des modules du jeu qui ont été retardés maintes et maintes fois, ça mettra tout le monde d'accord. On l'espère, on le souhaite vraiment. Mais là, il y a une petite incertitude en tout cas.
Ouais, ça c'est sûr que j'espère que ça va finir par s'arranger, mais ça va être compliqué. Disons que l'image du jeu va devoir radicalement changer et ils ont intérêt à sortir le paquet pour rassurer les gens, quoi.
C'est ça. Bah, le seul moyen maintenant, c'est de sortir une belle démo
du
jeu,
chose, quoi. Module, voilà. Ouais.
Voilà. Et là, ça peut complètement retourner l'opinion publique complètement tout très vite et tout de suite, quoi.
Oui, c'est ça.
Et pour finir, on parle de temps en temps d'un petit jeu bizarre, un petit jeu marrant qui sort de nulle part. En l'occurrence, je voulais vous parler de Disgaea 5, qui est un jeu très japonais, mais vraiment très japonais à tous les sens du terme, qui est sorti en version démo sur PlayStation 4, disponible depuis quelques jours. Le jeu lui-même est disponible aussi, bien sûr, mais... si vous avez une PlayStation 4, vous pouvez télécharger la démo et vous faire une idée sur le jeu. Alors, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. C'est un jeu de stratégie tour par tour où on joue des démons en style manga très kawaii, très mignon, qui vont et c'est un jeu très complexe avec des tonnes de tactiques, des tonnes de statistiques, des armes et des machins qu'il faut équiper sur les différents personnages qu'on va jouer. C'est très spécial, ça me rappelle le bon vieux temps dans les années 90 des jeux de stratégie de ce type-là. On pense à, je sais pas, Langrisser, ce genre de truc, mais c'est encore plus complexe. Peut-être, comment s'appelle sur 3DS, War quelque chose
Advance War.
Fire Emblem aussi, par exemple, voilà. Tout à fait.
Moi, ça me faisait penser aussi le trailer à Final Fantasy Tactics aussi.
Un petit peu, ouais, alors c'est ce genre de... Ouais,
c'est un tactical RPG, quoi. C'est vrai que c'est vraiment... Ouais. Un genre, c'est un sous-genre du RPG japonais qui est hyper apprécié, hein, même en Europe, mais Disgaea avec son univers, c'est encore plus niche. C'est encore plus un jeu de niche, quoi.
C'est vrai. Et c'est très particulier. Mais moi, qui suis particulièrement amateur de certaines tendances nippones, j'avoue que ça me parle toujours un petit peu. On peut mettre le jeu en japonais et là, tout de suite, ça nous transporte, quoi. Donc voilà, il y a la démo de Disgaea 5 disponible sur PlayStation 4. Et vous pouvez aller le tester.
Alors moi, j'ai vu le trailer. Surtout, ne regardez pas le trailer si vous avez déjà un mal de crâne. parce que même si le trailer est en anglais, mais ça reste très japonais, avec des voix toutes mignonnes, et on a des incrustations d'écran partout, dans tous les sens. Et voilà. Mais
tu sens que c'est vraiment... c'est Nipponichi Software.
Ah oui.
Et tu sens que c'est la traduction directe du japonais, quoi. Dans les voix, dans les styles de voix, dans le trailer, avec les incrustations de texte, effectivement, qui arrive comme c'est le cas dans les pubs japonaises, c'est très spécial, quoi. Mais moi, j'aime bien, ça me fait voyager un petit peu, ça me rappelle le Japon. Bon, bah écoutez, on a dépassé l'heure. Décidément, on n'arrivera jamais à faire en dessous. C'est pas grave. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. Et puis, avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver si les auditeurs veulent prolonger ce moment de bonheur et de plaisir. En honneur aux plus anciens, JK.
Oui. Alors moi ça commence à être compliqué, mais vous pouvez jusqu'à présent me retrouver donc dans les magazines papier Video Gamer et PC Gamer, également un petit peu sur jeuxvideo.com, mais tout ça sera, je vais sans doute en parler au passé bientôt, puisque je vais attendre de signer mon contrat pour l'annoncer vraiment, mais je vais rejoindre une grosse rédaction d'un site high tech. Je suis très content, j'en suis très content d'ailleurs, et donc voilà, je vais bientôt avoir un nouveau poste, ce qui fait que ma participation régulière au rendez-vous tech risque d'être un petit peu plus compliquée. Mais on va.
Il faut que tu débranches et que tu rebranches. Voilà, c'est ton micro qui manifeste son énervement et son mécontentement. Tu as pas débranché, t'as pas rebranché. Bon, bah écoute, Jeff, vas-y, dis-nous, on peut te retrouver alors?
Alors, on peut me retrouver en tapant Cohérent sur Twitter.
Ok, JK est revenu. Ok, bon. Fini JK, vas-y.
Vas-y, JK.
Excusez, ça a coupé à quel moment en fait?
À un moment où tu disais on peut me retrouver, je sais plus. Bref,
le moment où t'as dit que tu serais moins présent sur le rendez-vous, le rendez-vous jeu, et du coup le micro t'a censuré.
C'est ça. Eh ben, il t'a recensuré. Ben voilà. Dis-moi, il va falloir changer de micro si on veut refaire les émissions. Donc, t'es revenu. Mais c'en est comique. Jeff, vas-y. Alors, du coup, JK, attends.
Alors, donc, vous tapez Cohérent sur Twitter, Facebook, YouTube, Cohérent. C'est sur YouTube que j'officie le plus. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, évidemment, c'est rebalancé sur Twitter, Facebook. Je suis aussi sur le planning de GoHeroes.tv. C'est la chaîne 100% Heroes of the Storm de Gamers Origin, où je stream les mardis, jeudi et dimanche. Et en parlant de Gamers Origin, il y aurait des rumeurs en ce moment, peut-être, alors on en saura peut-être plus à la fin de la semaine, qu'on serait peut-être présent à la Paris Game Week, mais c'est que des rumeurs pour l'instant, voilà.
Ah, d'accord, bon, écoute, on attendra les news avec impatience d'ici la fin de la semaine, alors. J'espère.
Voilà, et JK.
Et JK n'est toujours pas revenu. Bah dites-moi, écoutez, JK, vous pouvez le retrouver, quoi qu'il arrive, sur son compte Twitter, qui est, si je ne m'abuse, JK Loret. Vous aurez les liens dans les notes de l'émission de toute façon. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur le blog frenchspin.fr. Et vous pouvez également aller commenter sur l'article de cet épisode pour nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de pas intelligent, bien sûr. Vous retrouverez aussi d'autres émissions là-bas, comme le Rendez-vous Tech au hasard. Entre parenthèses, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, n'oubliez pas qu'il y a une rencontre à Paris le 31 octobre. Vous avez les détails là aussi sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous joindre à nous, on va fêter les 1 an de ma professionnalisation de podcasteur qui, en fait, l'anniversaire, c'est à peu près fin octobre. Donc voilà, on se retrouvera à Paris le 31 octobre. Voilà, JK. Oui, on t'entend.
Oui, on va décider. C'est pas possible. On va rentrer à la fin de l'émission. Et oui, j'allais juste te dire que je s'arrête de passer le 31 parce que ça a l'air cool.
Ah, sympa.
Sympa. C'est un samedi, c'est ça?
C'est un samedi, vers le Sacré-Cœur.
Okay. 19h.
À 19h, exactement.
Très bien. Mais je pense que je passerai te faire un bisou.
Magnifique. Écoute, je l'attendrai avec, anticipation. Oui,
ok, d'accord. J'ai cru que ça allait devenir gênant, mais vas-y.
Non, ça sera gênant sur le moment.
D'accord.
Parce que maintenant, tu l'as promis, je le veux, mon bisou.
Oui, exactement.
Oui.
Ah bon, on veut tous le voir en plus. Hein.
Ah d'accord. Tu seras là, Jeff, ou pas?
Je serai là aussi. Oui.
Ah, mais super. Ah, ok. Alors, tout le monde sera là.
Et je veux mon badge. Je veux mon badge patriote. Hein.
Bien sûr, on aura les badges effectivement pour les patriotes. Les badges, mon nom est machin pour les patriotes, et puis pour ceux qui sont pas patriotes, on aura les badges sans le hashtag patriote. Pour ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech, vous savez de quoi on parle. Ceux qui n'écoutent pas, vous n'en savez rien. Mais c'est pas grave. grave, vous pouvez venir quand même, on n'est pas méchants, on passe un bon moment ensemble. Eh ben écoutez, ça va être tout pour cette émission, on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Alors je dis dans 2 semaines, ça risque d'être un petit peu décalé, parce qu'on sera au moment de la Paris Games Week, et en fait il y a la conférence Sony qui aura lieu, je crois que c'est le mardi,
enfin c'est 27, c'est, non je sais plus.
C'est ça, c'est le mardi, donc au lieu d'enregistrer l'épisode le lundi, on va peut-être l'enregistrer en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, donc ça sera un petit peu décalé, histoire qu'on ait toutes les infos de la Paris Games Week pour vous. Voilà, je vous fais donc à tous de grosses bises, on vous fait de grosses bises, et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.